à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Avec moi, comme d'habitude, French et Jalma, comment vous allez aujourd'hui ?
Bah écoute, ça va super. Moi, je me suis lancé dans une aventure de Final Fantasy, mais le 7 Remake, on va dire, avant d'enchaîner sur le Rebirth. Donc, je prends bien mon temps, tu vois. C'est intéressant de voir déjà la trame qui se met en œuvre, etc. Donc, je suis curieux de voir la suite de ce FF7 Remake. Puis, ça fait du bien d'avoir un jeu couloir aussi, pour une fois.
Une première petite appréciation, déjà, là, comme ça ?
C'est très porté sur le militantisme, l'écologie et la surindustrialisation, on va dire.
Ah, et on sait que t'adores les sujets qui touchent l'écologie.
Donc, c'est très politisé, mais c'est intéressant.
Et toi, French, comment tu vas aujourd'hui ?
Et salut à tous, et ça va super. Ravi d'entendre que Jalma apprécie Final Fantasy VII Remake. Profites-en, c'est un très bon jeu. Moi, ça va super. Ça va super. J'ai fini Like a Dragon Infinite Wheels, enfin, il y a quelques jours. Voilà. Un peu plus de 100 heures de jeu dessus. Je pense avoir fait vraiment beaucoup d'activités du jeu, donc voilà. Et j'ai bien aimé. C'est un des très très bons jeux de cette année déjà, alors qu'on est début mars 2024.
Peut-être qu'on aura l'occasion de t'entendre dessus sur un hors-série, peut-être avec des invités, on verra. Mais je sais que c'est un jeu dont tu as très envie d'en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie qu'on traite ce sujet d'ailleurs. On pourrait faire un hors-série dessus, ça pourrait être envisageable. En attendant, aujourd'hui... on va commencer avec le tu cliques ou pas, une rubrique où chaque chroniqueur donnera son avis sur les sujets ayant fait l'actualité dernièrement. Puis place au débat de la semaine dans la plaidoirie du geek. Nos chroniqueurs argumenteront autour d'un sujet d'actualité avec cette question. Les médias traditionnels décrédibilisent-ils les joueurs et l'industrie du jeu vidéo ? Enfin, nos chroniqueurs découvriront le coffre maudit de la semaine que je leur ai concocté. Je me régale déjà d'avance de savoir... ce qu'ils vont découvrir. Allez, on passe tout de suite au tu cliques ou pas.
Tu cliques ou pas ?
Alors, le tu cliques ou pas, comme d'habitude, on traite l'actu de manière express. Tu cliques, t'argumentes, tu cliques pas, on zappe. Sujet numéro 1, et c'est le 21 février dernier que Nintendo a présenté son partenaire Showcase, avec plus d'une dizaine de jeux présentés pour l'occasion. Jalma, est-ce que tu cliques ?
Ouais, je clique parce qu'il y avait du très bon, mine de rien. Donc moi, je vais vous citer qu'un jeu finalement que j'ai retenu, que j'ai découvert, parce que pour le coup, il s'agit d'une suite. D'ailleurs, je suis étonné que French ne m'en ait pas parlé en privé, donc, parce que c'est typiquement ce qui pourrait lui plaire, c'est Ender Magnolia Bloom in the Mist. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc en fait, il s'agit de la suite directe de Ender Lilies, développée par le studio japonais Livewire. Je suis désolé pour la prononciation anglaise, japonaise et autres, je ne sais pas si c'est ça du tout. Alors je vous donne le pitch parce que moi je le trouve super sympa. En fait, votre voyage va commencer dans le pays des fumées, où en fait tu as des pouvoirs mystiques qui reposent sur Terre. Et tu sais ce que c'est ? Le roi qui gère ce royaume veut conquérir ce pouvoir mystique. Donc il va créer des homoncules qui sont des sortes de formes de vie artificielles pour justement récolter ce pouvoir mystique. Et je vous le mets dans le mille, ça se passe mal et ça provoque l'émergence de vapeurs toxiques qui rendent fous les hommes et les machines. Donc ça part en couille, quoi. Enfin, voilà. Et en gros, c'est ainsi que vous allez incarner le personnage principal qui s'appelle Lila, qui va être également accompagné d'un homoncule, qui finalement est cette forme de vie artificielle qui est un ennemi des humains, pour exorciser la corruption. Et en fait, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous allez avoir 30 capacités différentes. On est vraiment d'heroic fantasy, un peu à la sauce Metroidvania. C'est vraiment un doux mélange de plusieurs choses. Et c'est sorti prévu en 2024 et ça fait très très envie.
C'est un jeu qui t'a fait tiquer toi, French, aussi ?
Alors ouais, ça m'a fait un petit peu tiquer. J'en avais pas parlé à Jalma tout simplement parce que j'ai pas joué au premier jeu. Ça fait partie de ces immenses jeux que tu as envie de jouer un jour et puis ça finit dans le backlog. Et puis bon, tu sais jamais quand est-ce que tu vas y toucher. Ouais, moi je suis assez curieux, même s'il y a quelques autres jeux qui m'ont peut-être un petit peu plus tapé dans l'œil dans cette présentation.
Donc c'est une news, tu cliques à fond, quoi.
Ouais, oui, bien sûr.
Ouais, t'es enthousiaste, évidemment. Okay.
Mais qui ne clique pas chez Nintendo,
moi,
déjà ?
Moi, malheureusement, je suis désolé, je vais pas cliquer.
Ouais, mais pourtant, il y avait des bonnes pépites, mine
ouais,
de rien.
Ouais, ouais.
T'as oublié de dire pas taper, Joss.
Pas taper. Allez, vas-y, dis-moi les jeux que t'as retenus.
Moi, j'ai retenu, c'est marrant que Jalma parlait d'un Metroidvania, parce que j'ai aussi retenu un Metroidvania dont nous avions déjà parlé par le passé. C'est le fameux Tales of Kenzera Zao.
Oui.
Il sortira le 23 avril et il sortira partout, sur Switch, PC, je crois PS5 et Xbox Series, si je ne dis pas de bêtises. Et lui aussi, c'est un Metroidvania avec une direction artistique assez singulière et qui a plutôt des choses à faire valoir. Bon, enfin, peut-être qu'on en reparlera assez vite.
Avec des très très beaux arrière-plans quand même. Les arrière-plans de Zao sont magnifiques et ça a l'air très dynamique en termes de gameplay. C'est assez radical.
Honnêtement, moi ça m'en rappelle un autre dont on a parlé également en émission, Le Monde est bien fait. le fameux Prince of Persia The Lost Crown, et moi j'ai tendance à penser qu'on sera dans cette mouvance-là, non ? Et
ça y ressemble effectivement, oui.
Par contre, je suis surprise, Jalma, je pensais que tu allais parler de Pokémon Pocket aussi avec les news Nintendo.
Ouais, mais en fait, c'est sur un autre event, c'est pour ça que je n'en avais pas parlé pendant le Nintendo Direct, mais moi je suis étonné que vous n'ayez pas relevé que le 27 février 2024, il y avait le Pokémon Present, c'était intéressant à suivre, et... Là, il y a eu un gros IP, enfin tout le monde a été super hype de l'annonce. Ils ont annoncé pour la sortie en 2024 d'un jeu mobile Pokémon Pocket. J'espère que vous l'attendez parce que vous aviez tous des cartes de collection
oui.
Pokémon chez vous,
non.
etc.
Bah oui.
Maintenant, ça arrive en dématérialisé. Donc vous allez pouvoir tous les jours avoir deux boosters gratuits. Donc ça, c'est génial. Avec des cartes de collection qu'on a tous eues, mais aussi des nouvelles cartes. Et il y aura aussi la possibilité d'effectuer des parties rapides avec le système de combat emblématique, le JGC Pokémon, voilà. Alors ça va être super intéressant, moi ce qui m'inquiète juste un peu, j'ai une interrogation, c'est est-ce que ce système de combat de cartes va te permettre d'obtenir des cartes chez ton adversaire ? Parce que c'était ça aussi à l'époque, souvenez-vous, quand on faisait des parties, c'était de récupérer des cartes en fait à son adversaire. Et j'espère qu'on va garder ce système-là de pouvoir récupérer des cartes. Mais moi, ça me fait très très envie et c'est gratuit sur iOS et Android.
Ça sort quand ça ?
On ne sait pas, c'est en 2024, on n'a pas encore de date annoncée.
Question un peu débile, mais est-ce qu'il y a une vraie valo sur ces cartes ? Parce qu'on le voit aujourd'hui, l'ampleur que prennent les cartes Pokémon. Est-ce que le fait de les numériser, on peut quand même avoir une certaine
mais
valorisation ?
Effectivement, ouais. Non, je ne pense pas qu'il y aura une vraie valeur de les avoir en termes numériques. Je pense que la vraie valeur des cartes, c'est physique. Après, pourquoi pas, il faudra voir... Ils ont montré quoi, 2 minutes de vidéo, hein, et on n'en a pas vu énormément.
Ok, intéressant. Bon, en attendant, on va passer au second sujet. On a Xbox hein, qui nous a également dévoilé son partenaire preview le 6 mars dernier. On a eu 14 annonces, des dates, des infos exclusives. French, tu cliques ?
Oui, je clique plutôt là-dessus, oui.
Mais
je clique plutôt. Mais j'attendais que tu me donnes la parole plus.
Oui, tu cliques.
Tu vois, je suis poli aujourd'hui.
Oh là là, depuis quand il est autant cadré ?
Je suis c'est n'importe
poli
quoi.
Aujourd'hui d'une force. C'est, il veut faire bonne figure comme le premier de classe.
Exactement.
Quoi. Mais par contre, quand tu vas écouter ses argumentaires, tu vas voir qu'il n'a pas bossé.
J'ai beaucoup bossé durant
Quelles annonces
aujourd'hui, non, il y a beaucoup d'annonces que j'ai retenues sur cet événement. Et c'est assez étonnant parce que, enfin, beaucoup d'annonces. En fait, il faut savoir que c'est quand même un événement assez mineur pour Microsoft, hein, dans le fond. Alors bon, peut-être que Jalma dira l'inverse, hein, mais ça le concerne. Mais malgré tout, il y a quand même eu quelques reveals qui sont assez intéressants. Moi, par exemple, j'ai noté un jeu assez mystérieux qui s'appelle Creatures of Ava. Moi, qui m'a plutôt parlé. C'est un jeu avec une histoire qui est écrite par la fille du romancier Terry Pratchett. Donc ça rappellera des souvenirs à ceux qui connaissent Discworld et ce genre de choses. Un petit auteur de burlesque fantasy, pas très très connu.
Et je te vois pas du tout sur ce genre de jeu. Bon, je te laisse développer, mais...
Ben, détrompe-toi. Moi, j'aime les auteurs qui ont une personnalité, qui ont quelque chose de fort. Et c'est donc la fille d'un excellent romancier, et au passage, un excellent univers. Donc, moi, je suis pas un béni oui-oui du jeu écologique comme toi, mon cher Jalma. Par contre, les jeux avec une réelle personnalité et une âme, là, ça me touche. Et je pense qu'on se situe
oui,
là, ici.
Oui, alors après, là, tu m'agresses là-dessus, mais c'est vrai qu'on le sait tous ici que tu n'as aucune sensibilité écologique. Bon, c'est ton droit. Et je suis étonné, d'ailleurs, que tu aies apprécié autant Final Fantasy. Mais pour revenir à la question de Creature of Ava, je crois que de ce que j'ai compris du jeu, il y aura vraiment l'objectif de capturer des créatures. D'ailleurs, il m'a fait beaucoup penser à la DA de Cheer, un petit peu. Je trouve qu'il y a quelques... Voilà. Moi, je suis étonné. Toi qui détestes les collectibles et autres, je te vois pas du tout à capturer des animaux, quoi. Et je sens que cette année, il va nous dire, les gars, je me mets sur Animal Crossing. Je sais pas pourquoi. Vu comment il est parti,
Attends. Animal Crossing, mais tu rigoles. La première version d'Animal Crossing qui est sortie en Europe, elle était dans ma console. Animal Crossing, j'ai pas attendu la version Switch pour y jouer. Hein.
Non, mais il se dévoile, quoi. On voit le vrai personnage.
Mais sinon, moi, j'ai surtout retenu The Sinking City 2. Qui est une grosse surprise parce que celui-ci était totalement inattendu. Donc là, c'est un jeu avec une ambiance lovecraftienne, avec de la brume, des monstres, une psychologie morbide, malsaine. Bon, là, je pense que Jalma, tu me retrouves plus. Ça, c'est déjà un petit peu plus ce qui me botte en général. Mais il y a aussi eu un truc qui nous avait déjà été dévoilé en 2022. Je suis très content d'en voir des nouvelles avec un trailer de gameplay vidéo. C'est le fameux The Alters. Et The Alter, ça se présente comme un survival city builder, ça c'est le nom officiel des développeurs. C'est un jeu de science-fiction où on va devoir survivre en évitant le soleil et on va devoir déplacer son habitation. Il faut imaginer une sorte de vaisseau, une ville mécanique qui peut se déplacer avec une motorisation. C'est les créateurs de This War of Mine qui sont derrière, un jeu qui était déjà très étonnant. Au niveau des logiques de guerre, de la psychologie sous temps de guerre, alors qu'il y a des restrictions absolument partout, des tickets de rationnement absolument partout. Et la particularité, c'est qu'on va incarner un personnage qui s'appelle Yann, et ce personnage, il a plein de clones, de versions alternatives de lui. C'est comme si Jalma, il avait par exemple des dizaines et des dizaines de clones Jalma qui se mettaient à lui parler en permanence au sein du jeu.
Oh mon dieu, le bordel dans sa tête.
C'est génial, mais je pense que le... Non, mais je pense que le monde serait meilleur, en fait. Et je pense que l'idée de French, si on veut à un moment donné qu'on s'en sorte face à cette écologie, il faudrait justement me dupliquer. Et je pense que le monde irait mieux, vraiment. Paroles.
Ouais, je te rejoins assez, moi, sur Sinking City 2. Il m'a fait de l'œil. Déjà, le 1 me faisait de l'œil depuis un moment, mais je ne l'ai jamais lancé. Et là, ça a l'air d'être quand même assez sombre, bien horreur. C'est vrai que peut-être que je vais enfin me lancer dans l'aventure.
2025, hein, il ne faudra pas être pressé.
Oui,
hein.
Mais il y a le 1 à faire en attendant. Hein. Je le vois depuis longtemps, il est dans ma liste sur Switch, tu vois, de jeux à faire. moi, j'ai retenu Unknown 9 Awakening. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'en avais pas entendu parler auparavant. Pourtant, apparemment, il y avait déjà eu une annonce et ils étaient un peu sous silence depuis quelques temps. C'est un jeu de type action-aventure. Alors, ce que j'aime déjà, c'est que l'histoire du jeu, elle est basée sur une série de livres. Donc, pour moi, ça fait aussi des belles promesses d'une narration qui est assez profonde. Donc ça, j'aime bien. Ça parle d'une exploratrice, en fait, qui va tenter d'acquérir une énergie ancienne, puissante, perdue depuis des lustres, pour ouvrir des dimensions parallèles. Le gameplay a l'air assez dynamique, on a des compétences de pouvoir, on la voit passer au travers des ennemis pour prendre le contrôle, par exemple, ça, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a aussi la possibilité d'infiltration, Jalma. Je pense que j'ai pensé à toi en regardant
ouais,
ça.
Ouais, mais honnêtement, moi, j'ai regardé la bande-annonce. Déjà, je me suis dit, t'es tellement prévisible. Je savais que t'allais aimer ça. Mais c'est un espèce de banisher mélangé à un jeu à la Uncharted avec
pas
des moyens
tout.
Limités.
C'est plus...
ça m'a refroidi. Je me dis, je
moi,
sais pas où on va avec ce jeu, quoi. Mais bon,
t'as pas
pensé
envie.
À Assassin's Creed un petit peu en
bah
regardant
ouais,
ça.
Prince of Persia même. Prince of Persia,
plutôt,
je trouve l'esthétique.
Non, vraiment, je voyais l'exploration un peu à la Tomb Raider, Uncharted et tous ces jeux-là qu'on a déjà vus, quoi. Bon, après, tu sais, Joss, tu vois, il faudrait que t'ailles vraiment vers des nouveautés, de la découverte. Donc moi, c'est pour ça que je vais vous citer. Je sais que French l'a mis dans son conducteur. Mais il a eu la noblesse, je retiens à le dire, de ne pas le citer pour me laisser en parler. C'est Sleight of Hand. Alors, on voit juste une scène cinématique du jeu. Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans le jeu, c'est que c'est un jeu d'action à infiltration qui se passe à la troisième personne, mais avec des éléments de deck builder. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont vous permettre d'étourdir des ennemis, d'interagir avec l'environnement, etc. Et ça, c'est un concept assez inédit pour le coup, et j'ai hâte de voir où le jeu peut nous emmener. Bon voilà, par contre, effectivement, on a vu que des scènes cinématiques, on aurait bien voulu voir des éléments de gameplay, parce que là, je suis très 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 curieux à suivre.
Ouais, surtout qu'il y a une particularité aussi, alors c'est vraiment pour les amateurs de doublage et de voix, comme desquels je fais partie de mon côté, c'est que l'héroïne ça s'appelle, alors je viens de vérifier, Lady Luck, et elle est interprétée par Debbie May West, ça vous parlera peut-être pas, mais c'était la comédienne qui doublait Meryl dans Metal Gear Solid, premier du nom. Ça, c'est un truc qui me plaît.
D'ailleurs, comme on aime la précision, le jeu que Joss a cité, l'héroïne, alors j'ai plus du tout le nom de l'actrice, mais ça va vous parler. En fait, ils ont repris le visage de celle qui joue Yennefer dans la série The Witcher. Voilà. Donc Joss, je t'apprends quelque chose, j'ai l'impression... Ça me fait toujours plaisir, ça fera 30€.
Et comme tu sais que je suis fou amoureux de Yennefer, tu sais aussi que ça me fait plaisir également, Jalma.
D'ailleurs, faudrait qu'on fasse un débat un jour, Team Triss ou Team Yennefer, ça serait super ouais. Intéressant. Tiens, un débat de ouf là-dessus.
On peut
quoi.
Le mettre un jour dans un coffre maudit, pourquoi pas. Sujet numéro 3, la Switch 2 sortira en mars 2025 plutôt qu'en 2024 pour éviter les problèmes de stock. Jalma, tu cliques.
Je clique parce que c'est très malin de leur part. On sait qu'il y a une grosse pénurie avec les Xbox et les PS5, etc. Donc de vouloir reporter, bon c'est toujours des rumeurs, hein, parce qu'elle n'a jamais été annoncée officiellement, mais de potentiellement vouloir reporter à 2025 pour s'approvisionner, je trouve ça pas idiot.
Okay.
Moi j'ai quand même une grosse inquiétude sur le prix et l'intérêt d'avoir une nouvelle console, une Switch 2. Parce que je rappelle qu'à l'époque, il y avait quand même eu l'échec de la Wii U, qui était sorti quelques années après la Wii. Et je rappelle que l'échec, c'était déjà que le prix à l'époque était hyper élevé, c'était entre 300 et 350€. Et en plus des graphismes qui n'étaient pas à la hauteur. Quel est pour moi l'intérêt là de sortir une Switch 2, à moins de faire peut-être un bond en avant dans les graphismes, parce qu'on sait que la Switch...
Je pense que c'est ça justement l'intérêt, c'est de faire tourner des nouveaux jeux en fait.
Bah ils ont aussi intérêt pour que ça se vende, de proposer des grosses nouveautés avec. Moi j'ai quand même des gros doutes sur la réussite de la console, hein. Moi ça me paraît, je sais pas, à voir quoi.
Moi pour le moment je vous avoue que je clique pas, même si c'est une news qui m'intéresse, je clique pas juste parce qu'il y a trop de rumeurs, trop de spéculations, et je préfère attendre des informations officielles, donc c'est pas pour le moment quelque chose où je vais cliquer. French.
Ouais, je clique aussi, je pars pour les arguments de Jalma, avec lesquels je suis totalement d'accord par ailleurs, je tiens à le signaler. Mais moi, au contraire, je pense que le moment est venu de sortir une Switch 2. Alors, venu, hein, entendons-nous bien, en 2025, selon les dernières rumeurs qu'on est en train de relayer. Mais moi, je pense que c'est le bon moment. Pourquoi ? Parce que j'ai revérifié, parce que je me disais, la Switch, je me rappelle très bien que quand elle est sortie, on disait que c'était une console déjà dépassée sur le plan technique. Alors, on va quand même rappeler qu'elle est sortie en 2017.
Oui, en même temps que Zelda Breath of the Wild.
Exactement, c'était au line-up, un jeu de line-up. Mais c'est. Et justement, moi, je me dis, bon, la console cartonne. Elle est dans tous les foyers ou presque. Il y a des jeux qui se vendent par paquet. On le voit encore avec le dernier Super Mario. Avec très prochainement le Princess Peach Showtime qui va probablement lui aussi casser la baraque. Mais moi, je me dis aussi le truc suivant. Je regarde autour de moi des gens qui ne sont pas forcément joueurs. Les écrans 4K, ils sont quand même hyper courants en télévision. Même avec pour quelques centaines d'euros. Quand tu sais que la Switch, elle n'est pas capable d'afficher ce type de sortie, moi je me dis, est-ce que ça ne serait pas le moment venu de sortir un hardware un peu plus fort pour essayer de coller un petit peu plus aux écrans qu'on a aujourd'hui ? Et moi j'aimerais bien voir des jeux peut-être assez simples dans le gameplay, comme chez Nintendo on sait très bien le faire, mais peut-être techniquement un peu plus solides en 2024 et en 2025. Donc moi j'attends quand même un regain de puissance. Je ne m'attends pas à avoir un Last of Us sur Switch 2, mais j'aimerais quand même voir mon petit Mario, mon petit Kirby avec une qualité un petit peu supérieure.
Ouais, voilà, mais bon. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que n'oublions pas qu'il y a des grosses rumeurs d'une sortie d'une PS6 et de potentielles consoles de côté de chez Xbox. Ouais. Est-ce que du coup, on le sort en 2025 et imaginons la PS6 sort en 2027, est-ce que du coup, elle va pas encore de nouveau avoir un train de retard par rapport à ces consoles-là, en fait ? Alors, c'est sûr qu'ils ont pas besoin de leur faire concurrence parce que ils ont des licences suffisamment fortes pour vendre des consoles. Mais moi, j'ai peur que s'ils n'apportent pas assez de nouveautés hardware, parce que c'est aussi leur force, ils se plantent complètement. Donc, à voir, quoi.
Bon, après, ça fait depuis très longtemps que Nintendo ne joue plus la course à la puissance. Donc, oui, ils auront probablement encore une génération de retard avec les futures consoles de Sony et Microsoft. Mais ça, ceci dit, ils n'auront qu'une génération de retard, et pas deux ou trois générations de retard si on en restait à la Switch 1. C'est ça, en fait.
News numéro 4, Ghost of Tsushima, un portage PC pour le 16 mai 2024 et une rumeur autour de la révélation imminente du second opus. Jalma, tu cliques ?
Non, j'y clique pas.
Tu cliques pas ?
Oh, surprise !
Ben, pas surpris parce que déjà, je l'ai acheté sur PS5 et que malheureusement, j'ai toujours pas eu le temps de le lancer, donc déjà, ça m'intéresse pas que pour le coup, il arrive sur PC. Maintenant, c'est des rumeurs. Moi, je vous rappellerai juste que ça va pas arriver tout de suite, hein, Ghost of Tsushima 2. Parce que généralement, quand vous regardez les sorties entre les PC et les suites sur PS5, parce que maintenant, on a très bien compris la stratégie de PlayStation, c'est de faire un appel d'air pour pousser les joueurs PC à acheter une console PS5 pour ceux qui n'en auraient pas. Entre Spider-Man et Spider-Man 2, il y a eu à peu près un an et demi. Bon, si on veut être un peu plus rassurant, entre God of War et God of War Ragnarok, il y a eu 10 mois. Ce qui veut dire que là, si le jeu sort au mois de mai, vous n'aurez pas Ghost of Tsushima 2, à mon avis, avant 2025. Voilà.
Ouais, mais...
Donc, je clique pas parce qu'on sait quand va arriver, du coup, Ghost of Tsushima, quoi.
Ouais, moi, je suis quand même contente de savoir que potentiellement, on va avoir les teasings à venir. Moi, Ghost of Tsushima, ça fait vraiment partie des jeux qui m'ont marqué dans mon parcours de gameuse. J'avais vraiment trouvé le jeu très bon à l'époque, que ce soit graphiquement, il y avait une ambiance de dingue, c'était tellement beau que ça en rendait l'exploration agréable, alors que dans certains jeux, c'est là où ça peut pêcher. Vraiment, tout était magnifique, le gameplay, il était simple mais efficace, l'histoire, elle était bien amenée, les personnages étaient très bien écrits. Moi, je me souviens, vraiment, c'est un jeu qui m'a tiraillé à la fin, et ça, c'est rare de noter des jeux qui arrivent à te procurer ces sensations-là. Donc moi, je suis très contente de cette news. Le 2, c'est un épisode que j'attendais avec impatience. Je suis très contente qu'il y ait ce portage pour que les gens puissent le découvrir enfin, avec encore une autre qualité, etc. Donc moi, c'est une news qui me fait plaisir. Honnêtement, j'ai rarement ressenti un jeu avec un open world qui est quand même assez grand, aussi peu de lassitude de A à Z. Vraiment, il m'a saisi du début à la fin. C'est un jeu que tu as envie de faire à 100%, quoi. Donc non, contente. French.
Bah, moi, je clique aussi. Je vais te rejoindre sur ton enthousiasme. Je suis très surpris de Jalma, mais après tout, ça le concerne. Alors, je clique pas pour Ghost of Tsushima 2, parce que comme on l'a dit, il y a zéro info là-dessus. On nous parle d'un reveal cette année, mais c'est hyper hypothétique à ce stade. Bon, je ne clique pas pour cette raison-là. Je clique bien pour le portage PC qui, lui, a été confirmé pour le mois de mai sur de Ghost of Tsushima, premier du nom, Director's Cut. Donc, c'est le fameux DLC avec l'île Doki,
ouais.
Ou Diki, j'ai un doute maintenant sur le nom.
Diki, oui, je sais pas.
Qui est en DLC, qui était en DLC.
Qui a un très bon DLC également.
Très, très bon DLC, ouais, qui sera intégré directement sur la version PC. Alors, un peu pour les mêmes raisons que toi, Ghost of Tsushima, alors, moi, je mettrais quand même de léger bémol. Moi, je trouve, je suis très content que les joueurs PC le découvrent. En revanche, le jeu a des faiblesses avec une grande répétitivité des activités, des
ennemis copiés. Ça, Joss, c'est bien caché de nous le dire.
Des ennemis copiés-collés.
Non, mais alors, t'as énormément d'annexes qui vont meubler, en fait, dans ton aventure. Mais en fait, elles sont belles. C'est-à-dire, tu dois monter à un endroit et écrire un poème, comment ça s'appelle, un haïki, je crois, c'est ça ?
Haïku,
pardon. Tu dois monter à un endroit, écrire un haïku. Il y a toute une ambiance, en fait, poétique dans le jeu. Que, honnêtement, oui. Moi, j'ai pris un plaisir à faire absolument toutes ces annexes.
Il y a effectivement de très, très beaux panoramas. Le système de combat est très appréciable. Très, très appréciable. Et voilà, il y a plusieurs armes. On va vous laisser la surprise quand vous allez le découvrir. Mais il n'y a pas que du combat au sabre dans le jeu. Il y a aussi des petites surprises.
Oui, tu as plusieurs postures. Donc, tu as un gameplay que tu peux varier.
Il y a un cheval. Ça va forcément, Janmai, ça va lui plaire. Tu fais des courses à cheval, quoi, dedans. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui était vraiment très, très beau. Je l'ai joué et fini sur PS5 de mon côté. Et je l'avais trouvé, malgré les petits points que je préfère remonter dès maintenant, je l'avais adoré jouer. Je l'ai quasi dévoré en une semaine, il me semble, sur PS5.
Il y a quand même une question que vous n'avez pas soulevée. Moi, je me demande maintenant qui va faire de l'ombre à qui. Je vous rappelle qu'il y a quand même un Assassin's Creed Red qui arrive, qui se passe dans le Japon féodal. Et la question, c'est qui fait de l'ombre à qui ? Est-ce que Ghost of Tsushima 2 va être suffisamment fort pour faire de l'ombre à ses Red ? Ou est-ce qu'Assered va suffisamment innover pour réussir à faire oublier Ghost
déjà,
of Tsushima
déjà, je pense
et
que
ça va être hyper intéressant à regarder.
Mais
ça,
déjà, je pense que c'est deux jeux qui ne vont pas sortir sur la même période, il me semble, parce qu'on sait que Codename...
Non, ça ne sortira pas à la même période, voilà. Mais tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens...
Et Ghost of Tsushima est un jeu qui a énormément séduit les joueurs, et je pense qu'il y a énormément d'attente autour du 2. Moi, je ne me fais pas trop de soucis concernant les ventes
de Ghost of Tsushima 2. Mais peut-être que des gens peuvent se lasser du Japon féodal, à un moment donné aussi.
C'est possible.
Oui, peut-être se lasser, mais on va retrouver une autre mécanique, on va retrouver l'univers en fait de Sucker Punch. Ça n'a rien à voir avec ce que Assassin's Creed va proposer.
Mais on ne sait pas ce qu'ils vont proposer pour l'instant. Ils ont dit qu'ils allaient innover, donc attendons de voir.
Bah, surtout qu'à la lumière de ce que j'ai dit, moi je pense sincèrement qu'ils ont une énorme marge de progression possible pour Ghost of Tsushima 2. Donc tout ça pour dire qu'ils ont un boulevard pour réussir vraiment le grand jeu qu'ils n'ont pas encore totalement atteint sur le premier opus. Ça, c'est plutôt positif. Et un deuxième truc où je suis quand même assez optimiste pour eux par rapport à Assassin's Creed Red, qui lui aussi se passera dans une époque assez similaire, c'est que les combats de Ghost of Tsushima, je les ai trouvés éblouissants et super. Et là-dessus, n'importe quel Assassin's Creed, je ne le trouve pas du tout au niveau, même les récents. Donc je me dis, bon, il a quand même des billes pour se battre contre AC si jamais ils entrent en confrontation.
Dernier sujet, sinon, Chance of Senar, élu meilleur jeu de l'année lors des Pégase 2024, la cérémonie française qui récompense le jeu vidéo. Jalma, tu cliques ?
Oh bah, j'aurais préféré que vous répondiez avant et conclure, si ça ne te dérange pas, parce que j'ai dit un gros coup de gueule contre les Pégase 2024. Donc je vous laisse déjà parler et je terminerai par mon coup de gueule, histoire de finir sur une bonne note.
Vas-y, moi je suis contente pour Dordogne. Hein. Déjà, je voulais le mettre en avant, qui a gagné l'excellence visuelle.
C'était un jeu en mérité, oui.
Ouais, c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé, nous, au sein de la GG, qui d'ailleurs avait gagné le prix de la meilleure DA chez nous au GG Awards l'année dernière, avec sa DA, l'aquarelle, etc. Je suis très contente qu'il soit récompensé. Je suis très contente aussi pour Jussan, qui a gagné le prix du meilleur univers sonore. C'est vrai que c'était sublime avec ses musiques, on était dans une réelle immersion. Et j'ai vu Headbanger dans la meilleure innovation technologique. Bon, c'était marrant.
Bon, tu peux quand même citer Soldat Inconnu, je crois que c'est la suite, hein, Friendship Bad Bêtises, qui a raflé beaucoup de prix, et moi j'avais fait le premier, ça m'a donné très très envie de découvrir cet opus-là, qui sort sur console maintenant en plus.
Pareil.
Bien récompensé, ouais. French, toi tu...
Je clique également, et effectivement, Soldat Inconnu sortira sur PC et console, vu qu'il n'était que disponible sur smartphone et tablette, du coup j'avais zappé ce deuxième opus, hein. Et oui, je clique bien sûr. Alors, au-delà des bons jeux que vous avez déjà tous cités, Baldur's
Gate
3,
surprise.
Pas très connu, a fait le meilleur jeu vidéo étranger.
Mais là, on parle des jeux français, on s'en fout.
Oui, mais il a une récompense.
Ah, ouais, mais il a eu un prix, tu sais, moi, ça me fait
plaisir. Oh, le lourd dingue, quoi.
Laisse-le parler de BG3.
Mais on parle des Pégases, il a fait un très beau prix. Bon, c'était dur pour la concurrence, ceci dit. Il faut saluer la concurrence parce qu'il y avait une belle concurrence par ailleurs aux côtés du jeu.
Oui, bah, vous auriez quand même pu citer Assassin's Creed Mirage. Ça fait plaisir pour Joss qui a été élu avec le prix du public.
C'est vrai, c'est vrai.
Comme quoi les joueurs, eux, ont du goût, Joss.
J'ai pas compris.
Moi, je dirais plutôt qu'il y a un vrai plébiscite. Il y a un vrai... le public aime Assassin's Creed et l'a montré. Voilà, je sais pas si c'est une question de goût, mais enfin bon, je te laisse, Jalma.
Ouais, je pense, ouais. Enfin,
mais non, mais attends, je termine sur mon coup de gueule si vous voulez des Pégases.
Non, bah j'ai pas répondu sur Chains of Sennar. Ou...
Ah bah alors vas-y, je t'en prie.
Chains of Sennar, j'en suis extrêmement content parce qu'effectivement, c'est le grand gagnant. Si mes souvenirs sont bons aujourd'hui, il a quand même fait 3 prix.
Il était nommé dans 7 catégories, il me semble. Hein.
Et il a remporté 3 prix.
Mais c'est très original le fait, on peut rappeler un peu ce qu'est le jeu.
On l'a adoré. Ouais, on l'a adoré.
De rencontrer des populations qui n'arrivent plus à communiquer entre elles et d'essayer de traduire les langues, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'à chaque niveau, tu repars de zéro et tu dois traduire les langues pour réussir les énigmes et avancer au fil de l'aventure. Et c'est quand même hyper intéressant pour escalader la tour de Babel.
On en avait parlé en hors-série, c'est vrai que c'est un jeu qui nous avait tous enthousiasmés dans ce hors-série. On vous invite à écouter nos anciens numéros d'il y a quelques semaines. Et au-delà de ce que disait Jalma, pour compléter, c'est un jeu qui est passionnant et c'est hautement symbolique finalement cette victoire, je trouve. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché aujourd'hui en voyant les résultats. Parce que c'est un jeu qui demande en fait aux joueurs de réfléchir sur le sens des mots, le sens de la communication, pour essayer de trouver un moyen de rassembler les cultures, de trouver des passerelles pour s'entendre et vivre ensemble.
Il y a tout un message.
Si vous trouvez un meilleur message, que ça aujourd'hui,
fédérer.
Bah, appelez-moi. C'est fédéré, ouais, c'est très beau.
Jalma, vas-y, ton coup de gueule.
Oui, bah pour le coup, les Pégases ne m'ont pas fédéré du tout, parce que alors déjà, je m'adresse aux Pégases. Les gars, déjà, pourquoi c'est vous mettez les Pégases en mars 2024 ? Déjà, mais sans déconner, mettez-les en début d'année. Les gens, ils sont déjà passés à autre chose, en vrai. Moi, il y a des jeux qui étaient notés, j'avais déjà oublié qu'ils existaient, limite. Enfin, je troll un peu, mais pourquoi ils font pas ça déjà en janvier ? Sur les réseaux sociaux, il y a eu très peu de com. Moi, j'ai vu très peu de joueurs ou de créateurs de contenu qui ont parlé des Pégases. Donc, à croire que tout le monde s'en fout. Je leur ai déjà dit, mettez des bandes annonces exclusives de jeux français. Non, mais bien sûr que si. Il faut, à un moment donné, américaniser un peu ton truc comme les Games
Awards. C'est vrai qu'il y a un côté très soporifique sur cette cérémonie. Non.
Mais ils auraient très bien pu annoncer quelques images exclusives d'Acerred, par exemple, qui est un studio français. Ça aurait fait... Ils ont cité juste un jeu de Microïds, The Amazon. Je suis sûr que vous n'en avez même pas entendu parler.
Oui, et puis c'est Microïds, excuse-moi.
Oui. Bon, voilà. Ouais, voilà, mais bon, voilà. Alors, en plus, c'est un truc qui me surprend, parce que je me suis amusé à faire un petit comparatif. Tu veux mettre en avant les jeux français ? Il n'existe pas de prix, comme pour les Games Awards, du jeu le plus attendu en 2024. Ils auraient très bien pu mettre un prix du jeu le plus attendu français de 2024. Ça peut faire de la publicité pour les jeux français. Ils n'en parlent même pas. Et puis alors, et comme ça va te faire ta transition pour la suite, tu vois, Joss, c'est qu'il n'y a eu aucun relais, très peu, dans les médias nationaux. Enfin, on peut le comparer quand même au César du cinéma français. Tu regardes, j'ai regardé aujourd'hui, aucun média français ne parle des Pégases. Enfin, c'est quand même dramatique. Enfin, je suis désolé. Comment vous voulez mettre en avant le jeu français s'il n'y a même pas de relais dans les médias nationaux ?
C'est vrai que c'est bien le seul point où je te suis vraiment à 100% dans toute ta démonstration. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ta démonstration ? Parce que tout simplement, c'est un salon qui se destine aux professionnels et que du coup, tout ce que tu cites là, c'est des trucs à destination du grand public et c'est pas du tout la vocation de ce salon. Enfin, ça, on le dit depuis des années, mais tu ne veux pas le comprendre.
Mais c'est la vocation aussi d'attirer les joueurs. Et en plus, on va être honnête avec nos auditeurs, il n'y en a aucun de nous trois qui l'a regardé. Donc, c'est pour vous montrer l'intérêt qu'on a.
Non, j'ai un récap. Mais moi, je travaillais.
Ça en dit long. Mais ceci dit...
C'est vrai qu'on l'avait regardé une fois, c'était très long et très...
Oui, mais tu en oublies. Tu en oublies que c'est un salon destiné aux professionnels. Ceci dit, je te rejoins quand même sur un seul point, et un seul, c'est que, comme d'autres cérémonies que tu as citées, on pourrait citer le théâtre, la fête de la musique, les victoires de la musique et ce genre de choses, et effectivement, on pourrait imaginer quand même que les chaînes d'actu, par exemple, il me semble que France Info a quand même fait un petit sujet.
Oui, c'est très léger, même BFM TV a fait un petit article aussi
mais
sur Internet.
Ça aurait été bien de revenir sur, au moins de préciser quels sont les gagnants, tu vois, au moins une petite brève, et ça manque, ça je suis d'accord.
C'est là où il y a une vraie problématique, et c'est là où on va passer à la plaidoirie. Est-ce qu'aujourd'hui un jeu, une cérémonie, ou peu importe quoi qui touche à l'univers vidéoludique, en fait, est traité, comme par exemple, ça peut être le Festival de Cannes, ou un long métrage, est-ce qu'il est traité de la même manière par les médias? Non. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, c'est 300 milliards de recettes mondiales.
Oui.
Donc, il y a un vrai problème. Il y a une vraie, pour moi, désinformation au niveau des médias traditionnels sur l'industrie du jeu vidéo. Et on va en venir tout de suite avec la plaidoirie du geek. Je tenais juste à dire, Jalma, je pense qu'on va faire une pétition pour que tu sois académicien au Pégase l'année prochaine.
Non, mais par contre, j'ai noté un truc très intéressant dans l'argument de French, c'est que French aime les salons mondains. Donc, je pense que si tu lui prépares des petits fours, etc., et qu'il rencontre des personnalités, ça lui perd beaucoup, parce que son argument, il dit « Oui, mais c'est des professionnels, donc c'est normal, ça soit chiant. » Oui,
exactement.
T'auras tes petits fours, French, on va passer à la plaidoirie du geek. La plaidoirie du geek. Alors, aujourd'hui, dans la plaidoirie du geek, nous allons avoir un débat passionnant autour de cette question assez importante. Les médias traditionnels décrédibilisent-ils ou comprennent-ils les joueurs et l'industrie du jeu vidéo? On pourra également revenir sur cette séquence, d'ailleurs, qui nous a tous fait tiquer de LCI, qui a tenté de parler de Final Fantasy. C'est un peu ce qui nous a amené à ce sujet aujourd'hui. Donc alors, pour ou contre, j'ai demandé à chacun d'argumenter son point de vue pendant une minute, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et suite à ça, on ouvrira un débat que j'appelle le fight. Il y aura un gagnant et voilà. Je ne sais plus qui avait commencé la dernière fois, mais j'ai envie de te donner la parole à French. Est-ce que tu veux démarrer un peu cette plaidoirie?
Puisque tu me le demandes, je ne peux pas te refuser. Hein. Eh bien, tout à fait, on va démarrer cette plaidoirie. Eh bien, écoute, sur la question que tu poses de la représentativité du jeu vidéo dans les médias nationaux, en quelque sorte, eh bien, moi, déjà, je tiens à vous dire à tous que j'ai pas été choqué par ce qu'on a vu sur LCI. Alors, si vous n'avez pas vu cette séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux, on vous invite à aller la regarder. C'est une séquence qui parle de Final Fantasy VII Rebirth et qui a fait l'objet de nombreux commentaires. Moi, j'ai envie quand même de poser une question. Une question tout de suite. Est-ce que vous trouvez qu'on parle beaucoup de jeux vidéo sur les médias nationaux? Bon, alors évidemment, vous n'avez pas répondu maintenant, puisque j'ai le droit à une minute. Mais la réponse, elle est très très simple.
Oui, donc c'est complètement con de faire ça, quoi.
C'est une question rhétorique. Je t'invite à regarder ce que c'est une question rhétorique. La réponse, elle est immédiate. La réponse, c'est non, bien entendu. Pourquoi non? On parle tellement peu des jeux vidéo dans les médias généralistes. Je vais peut-être même préciser médias nationaux, finalement. TF1, France 2, France 3, M6. On en parle tellement peu que moi, je pars du principe que finalement, tout est bon à prendre. Y compris quand on en parle peut-être un peu mal. Et c'est là-dessus que je vais peut-être un petit peu développer. Sur LCI, quand vous reprenez la séquence, on remarque qu'en fait, il y a des rires entendus un petit peu sur le cas de Final Fantasy. Les chroniqueurs qui évoquent le truc ne connaissent absolument pas Final Fantasy, donc ils ne savent pas que le 7 est un jeu phénomène, un jeu marqueur même d'une époque pour tout un tas de joueurs. Mais on est sur un média de grande écoute. En plus, une chaîne d'actualité nationale qui est plus à même de traiter de l'actualité de Gabriel Attal, éventuellement des problématiques de guerre qu'on a malheureusement dans le monde aujourd'hui, plutôt que de parler jeux vidéo. Ceci dit, à partir du moment où LCI n'est pas une chaîne qui est pensée pour les gamers, quelque part, c'est déjà pas quelque chose qui s'adresse à nous. Mais c'est une exposition qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, pourquoi? Parce que si un adulte quelconque qui ne joue pas aux jeux vidéo passe par là, voit cette séquence, bah peut-être qu'il peut avoir un début d'intérêt. Et moi, ce début d'intérêt, même si on parle mal du jeu, bah, je trouve ça assez intéressant. Alors, est-ce que j'ai des regrets sur une séquence comme ça? Oui, bien sûr, j'en ai. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que les protagonistes ne connaissent pas du tout leur sujet. Vu qu'on parle de FF, c'est comme Resident Evil ou Mario. On aurait pu imaginer quand même qu'il y a un petit travail sur Wikipédia ou au moins se renseigner un peu sur ce que c'est Final Fantasy. C'est quand même une licence giga connue, très gros budget. Voilà, donc ça, par contre, je suis un petit peu embêté. Ceci dit, faut pas oublier que dans les médias, on a aussi parfois des très belles surprises. Moi, j'ai envie d'en citer au moins une qui, avec une spéciale dédicace à Brian qui nous écoute peut-être, puisqu'il avait participé à chroniqueur que nous aimons beaucoup de Point and Think, qui avait participé à l'émission Blockbusters sur France Inter où on avait parlé de Nier Automata à heure de grande écoute. Ça, c'est pas rien, par exemple, pour parler du jeu vidéo. Moi, à titre personnel, j'ai un souvenir de France 5 dans le Journal de la Santé, où j'ai déjà vu des sujets sur, par exemple, l'hypnose en réalité virtuelle pour gérer des anesthésies. C'est un vrai sujet qui se développe et qui commence aussi à faire parler de lui. Ben ça, c'est un moyen de parler de jeux vidéo positivement. Alors, tout n'est pas parfait, bien entendu, et je me réjouis déjà d'entendre Jalma sur le sujet, parce que je me doute qu'il aura un avis contraire.
Ouais. Ben, je vais te défoncer, oui.
Mais je pense sincèrement qu'il y a une éducation qui est nécessaire, bien entendu. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo, on n'en parle pas suffisamment, et on n'en parle pas suffisamment bien non plus. Mais il faut surtout, je trouve, se réjouir qu'il y ait des initiatives. Tant qu'il y aura des pensées positives, humoristiques, même si elles sont maladroites, bah moi je trouve que c'est toujours plus valorisant pour tenter de démocratiser nos jeux vidéo. Et je m'arrêterai là-dessus.
Oui, je suis d'accord. Une initiative très maladroite. Moi, honnêtement, la séquence de LC, juste pour en toucher un mot, Antonella Jalma, elle m'a dérangée. Elle n'est pas mauvaise, comme tu le dis. J'entends ce que tu veux dire, mais on est là, il y a des rires, ça caricaturise absolument tout le jeu. Tu sens qu'il y a une méconnaissance du milieu totale. Et alors, pourquoi, quand tu veux pas, quand tu parles d'un sujet, pourquoi pas ne faire venir un expert ou quoi que ce soit, quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine, et le traiter d'une manière correcte? En fait, ce qui me dérange, c'est toujours qu'il y a une certaine condescendance dès qu'on traite le jeu vidéo. Soit on le diabolise, soit on en parle avec un certain mépris et un certain ridicule, en fait. C'est ça qui me dérange, moi, dans le traitement des médias. Mais on en débattra par la suite. Jalma, est-ce que toi, tu veux répondre à French aujourd'hui? Quels sont tes arguments? T'as une minute.
Je me rends compte qu'une fois de plus, French est un utopiste sans nom et qu'il ne se rend pas compte de la réalité des choses. Alors, je vais juste lui répondre par rapport à LCI, parce que je vois qu'il ne connaît pas bien la chaîne. Je rappelle que généralement, ils proposent des chroniques culture, notamment pendant les grandes écoutes le matin. Donc en plus, d'ailleurs, ils font intervenir des journalistes spécialisés en culture. Je crois qu'a priori, le jeu vidéo intègre la culture. Donc je ne vois pas pourquoi ils abordent des sujets avec autant de légèreté quand tu as des spécialistes culture qui sont des journalistes. Enfin, je sais pas, moi pour moi, le métier de journaliste, déjà, ce que tu fais, c'est que tu te renseignes. Sinon, tu ne racontes pas des inepties pareilles. Alors moi, il y a surtout une phrase qui m'a choqué et que j'ai relevée. Je ne comprends pas que Fred... Parce que finalement, les rires, etc., moi, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Mais il y a une phrase de la journaliste qui est indécente et je demande aujourd'hui sa démission immédiate parce que c'est une faute professionnelle de sa part. C'est qu'elle a dit à un moment donné, elle parlait des chocobos, etc. Et elle se dit, on se demande ce que prennent les créateurs de jeux vidéo pour prendre des univers pareils. Mais c'est indécent de dire une phrase pareille sur une chaîne nationale. Je suis désolé, mais elle ne se serait jamais permis de le faire s'il s'agissait d'un tableau d'art de Picasso, par exemple, ou encore d'un film au cinéma. Donc là, elle a émis un jugement. Je rappelle que c'est une faute éthique, c'est une faute professionnelle, c'est une faute déontologique. Quand tu es journaliste, tu dois rester neutre. C'est choquant. Moi, je suis désolé, tu l'as dit juste avant, Joss, les médias continuent de traiter le jeu vidéo avec méprisance et condescendance. C'est insupportable. Moi, j'aurais aimé qu'ils parlent de Final Fantasy. Ils auraient pu aborder justement que c'est une histoire qui aborde des thèmes comme l'écologie, comme la surindustrialisation, comme une société avec des riches et des pauvres. C'est ça que traite Final Fantasy. Je suis en train de le découvrir dans le remake. Et ben, c'est des sujets quand même du moment. Et à aucun moment donné, les journalistes n'ont parlé de ça. Ils ont préféré se foutre de la gueule des chocobos à croire que le jeu se résume qu'à ça. Donc c'est une condescendance sans nom. Maintenant, je vais élargir un peu. Parce que je vous rappelle que quand on parle de jeux vidéo, c'est dès qu'il y a des dramas et qu'il y a des gros soucis, des attentats, etc. malheureusement. Je vais vous citer, et c'est encore récent, le 22 février 2023, Kevin Bossuet, French doit bien le connaître, ça doit être un ami à lui, sur CNews.
Ah bah, c'est un habitué de la connerie sur le jeu vidéo.
Voilà, qui est un prof d'histoire. Et en fait, il y avait eu un meurtre justement à Saint-Jean-de-Luz en 2023. Un élève qui avait tué une prof espagnole et on s'est rendu compte qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et la première chose qu'il a déclarée, c'est que les élèves sont sans arrêt sur les jeux vidéo en train de jouer à des jeux extrêmement violents et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc tout de suite, c'est la faute des jeux vidéo. Alors que souvent, généralement, quand il y a des meurtres ou des attentats, on sait que c'est beaucoup d'éléments. Alors après, je rappelle qu'en France, il y a quand même 37 millions de joueurs, donc c'est facile de tomber vite sur un gamer. Hein. C'est juste des statistiques, je vous laisserai vérifier. Alors je rappelle aussi à l'époque, vous savez, quand il y avait l'essor du jeu vidéo, alors vous en souvenez, bah, les talk shows de l'émission que French devait regarder énormément, ça se discute. Voilà, je vous rappelle que les émissions à l'époque proposaient des thèmes, alors je vous en cite un, des témoignages de parents qui étaient dépassés par leurs enfants, qui étaient devenus accros aux jeux vidéo, qui étaient devenus violents. Hein, bah, ça, c'était dans les années 90. Hein. Et puis maintenant, je vous rappelle que généralement, maintenant, quand il y a malheureusement des fusillades aux États-Unis, bah, les jeux vidéo sont mis en avant comme premiers responsables. Voilà, voilà les médias, merci, merci de nous réconforter. Donc non, il y a encore beaucoup d'avancées à faire, donc j'en ai marre d'entendre des mecs comme French, utopistes comme pas possible, qui disent qu'ils mettent beaucoup en avant les jeux vidéo, c'est complètement faux. Dès qu'on peut se faire dégrader, ils n'hésitent pas à le faire.
Préfère dire idéaliste plutôt qu'utopiste.
C'est vrai que plutôt que remettre en question le lobby des armes, on préfère trouver une excuse dans le jeu vidéo. Vous avez dit des choses très vraies tous les deux. Jalma, t'as dit un truc qui est très vrai. T'as parlé de la culture et tu vois aujourd'hui quand on regarde, je pense que le jeu vidéo n'est pas considéré comme un élément culturel par les médias aujourd'hui. Et ça, c'est une problématique. Si tu regardes Le Monde, ils ont une page culture. La catégorie jeux vidéo ne fait pas partie de cette page culture. Elle est dans une catégorie
oui,
annexe.
Mais le monde à Pixel, qui est une excellente sous-partie du
il
monde
ne fait
qui
pas
parle
partie de
jeux vidéo.
La culture.
Oui, bah, mais elle a raison, Joss. Ils ont créé le Pixel et c'est pas dans la catégorie culture.
C'est à mon avis un mauvais exemple.
Ah oui, mais on vient de te voilà. le donner.
Et si tu vas vers l'IB, il y a aussi un très mauvais exemple parce que tu as Silence on Joue qui est une excellente émission
et...
sur les jeux vidéo.
Mais je rejoins. Bon, French, toi, tu penses que les médias traditionnels, quand même, essayent de tendre à ouvrir la voie à cette industrie. Ils essayent de communiquer autour, peut-être de manière maladroite, mais on se dirige un peu dans cet axe. Toi, Djalma, tu penses que c'est le contraire, il y a une compréhension totale du sujet avec un traitement particulier. Tu penses qu'on va souvent avoir des reportages qui vont se concentrer sur les cas pathologiques d'addiction ou de troubles comportementaux
ben, la violence,
plutôt qu'un vrai
oui.
traitement, et de violence plutôt qu'un vrai traitement du média comme il existe. Écoutez, j'entends vos deux arguments, je pense qu'on va ouvrir la fight room. Allez-y.
Mais ce qui est très marrant dans ce que Djalma disait... Et d'ailleurs, je te rejoins sur certains points, tu vois, comme quoi j'y arrive. C'est que, en fait, dans les médias, tu t'aperçois, réfléchissez bien, la plupart du temps, le jeu vidéo est encore perçu comme un jouet, en fait. C'est pas pour rien qu'on va te mettre en avant Mario. Mario, bah oui, parce que Mario, c'est quand même l'archétype du jouet, du truc ludique, comme tu pourrais parler d'une poupée, de
G.I. Joe. Puis ça parle à tout le monde, ça fait pas peur, Mario, ça parle à tout le monde.
Ouais.
On va pas te parler, c'est Doom à l'époque, des jeux comme ça qui avaient fait scandale. Crois-moi que quand GTA 6 va arriver, sur les médias, tout le monde va s'offusquer. D'ailleurs, ma mère, je me souviens, excusez-moi maman si t'écoutes ce podcast, mais quand elle a vu le trailer de GTA 6, elle m'a envoyé, elle m'a dit, vous avez vu le trailer, vous qui jouez aux jeux vidéo, avec les femmes, nanana. Je dis, maman, oh. mais quoi, tu vois l'image que ces médias aussi transmettent, parce que les médias, malheureusement, c'est des heures à des heures de grande écoute, ça touche à un autre public que ceux qui sont concernés comme nous, gamers. Donc ça, pour moi, c'est dommage, parce qu'en fait, ce genre de médias-là pourrait permettre d'ouvrir les esprits de ceux qui ne connaissent pas l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, ça ne fait que créer un écart.
Je pense qu'il y a un impact dans la société. Parce que après, le problème, c'est que quand tu as cette image-là, tu ne dis pas forcément dans la vie de tous les jours que tu es gamer. Moi, je veux juste vous raconter l'histoire de hier soir. Hein. Donc, maintenant, vous saurez, je parle un peu de ma vie privée. Je fais du théâtre à côté, pour le coup. Donc, j'étais avec un groupe de théâtre dans un bistrot. Et par hasard, au détour d'une conversation, alors que ça fait 6 mois que je connais personne, j'ai découvert qu'il y avait un gros gamer qui fait du théâtre avec moi, en fait. Et en fait, aucun des deux n'a osé parler parce que je pense qu'on a peur de l'image que renvoie le gamer. Et je pense que pour en revenir aux médias, les médias n'aident pas là-dedans. Ils n'aident pas à... Moi, j'aimerais que les médias, maintenant, c'est ce que j'ai dit juste avant, qui parlent de la thématique des jeux vidéo, que voilà, les jeux vidéo abordent l'écologie, abordent des sujets sociétals, abordent des sujets économiques. Ça, ils n'en parlent jamais. Et je trouve ça honteux à un moment donné. Pourquoi il n'y a pas une vraie page culture sur le jeu vidéo? Aucune chaîne ne se lance là-dedans. On n'a pas de page culture. Les seules chaînes qui ont lancé des choses et malheureusement elles se sont arrêtées, ça va être les chaînes cryptées ou payantes, où sur Bein Sports, on avait justement des émissions d'e-sport dessus. Mais le problème de l'e-sport, c'est que ce n'est pas représentatif de l'ensemble des gamers, parce que c'est quand même une casse qui est quand même bien spécialisée. Et on avait sur Canal+, donc qui est une chaîne payante, on avait tous les dimanches le journal du jeu vidéo qui était présenté, qui s'est arrêté. Mais c'est trop maigre par rapport à tous les joueurs, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui jouent aux jeux vidéo. Et j'aimerais voilà, qu'ils montrent déjà... Ils pourraient faire des reportages sur déjà comment on construit un jeu vidéo, quelles équipes il y a derrière, comment ça se construit. Ils pourraient faire... je veux dire, par exemple, TF1 fait des reportages tous les week-ends après 13h30, justement, sur différents métiers. Pourquoi on n'aurait pas, moi j'en ai jamais vu, sur les métiers du jeu vidéo, comment se construit
ça
un jeu vidéo,
super
ça serait déjà
utile.
Intéressant.
Ça serait super utile parce que c'est un autre sujet. Moi je sais qu'on est touché dans la famille parce qu'on est tous un peu des gamers, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans l'industrie. Mais quand je vois les enfants aujourd'hui, tu vois, il y a tellement une méconnaissance de tout ça, de ce secteur de l'industrie, que quand un gamin veut se lancer dans une carrière, personne ne peut l'aiguiller. Et quand tu te dis je veux travailler dans le jeu vidéo, bah, tout de suite c'est non, vas-y, réfléchis à autre chose, c'est pas un métier qui est viable. Alors que t'as plein de secteurs qui sont hyper porteur dans cette industrie, mais personne n'a connaissance de... J'ai l'impression qu'en fait, il y a une méconnaissance du sujet global sur le jeu vidéo. À part ceux qui se renseignent comme nous, quand tu parles de grand public, personne ne connaît l'industrie.
Oui, mais parce que les journalistes ne prennent pas le relais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très juste, et c'est pour ça, French, il me fait rire avec ses arguments. Ça tombe bien, il cite son grand ami Brian, donc tant mieux. Il dit, bah oui, il a mis en avant un psychologue. Mais attendez les gars, pourquoi ils envoient des psychologues pour parler jeux vidéo? Pourquoi ils envoient pas des spécialistes de jeux vidéo? Pourquoi des psychologues? Quand tu fais de la psychologie, c'est pour faire des analyses. Et c'est marrant parce que quand tu regardes les médias, souvent ça dérive vers la violence ou l'addiction. Mais pourquoi vous envoyez des psychologues les gars? Envoyez, on a vu une seule fois Julien Chies qui avait été reçu sur BFM.
C'est pas mal,
Mais ça arrive que trop rarement, quoi. Ça arrive que très rarement. Donc envoyez des spécialistes. Pourquoi des psychologues? C'est-à-dire, en plus, ce qui est marrant, Fred, moi, il me fait rire maintenant dans ses analyses de débat.
C'est marrant parce que j'en ai pas encore parlé, mais je suis ravi que lui, mon conducteur.
Il se tire des balles dans le pied dans ses arguments, c'est magnifique.
Je ne l'ai même pas encore prononcé, mais je trouve ça intéressant.
Vas-y,
je pars vers l'autoroute de la victoire une fois
Jalma,
de plus.
Jalma, j'aimerais un droit de réponse pour French, s'il te plaît.
Mais j'ai pas encore évoqué ça, mais pour le coup, je suis désolé, je trouve un peu ton argument caduque. Alors. Et je comptais parler en fait de Michael Stora. Michael Stora qui est un psychologue et qui, entre autres, est connu pour exploiter, très connu même, il a sorti plusieurs bouquins, il a déjà été invité en émission. Et c'est un psychologue qui est très connu pour utiliser le jeu vidéo comme instrument thérapeutique. Il l'utilise en différentes choses. En l'occurrence, si vous vous intéressez à la question, je vous invite à essayer de suivre comment il évoque le jeu Ico, le rapport avec cette espèce de silhouette féminine frêle et ce jeune garçon qui cherche à la sauver. Dans le but de relier, de reconnecter les êtres. Un jeu magnifique et il en parle extrêmement bien d'une manière assez différente. Alors, ce psychologue, il a déjà été invité parce qu'au contraire, il ne diabolise pas les jeux vidéo. Ça fait partie des personnes qui envisagent le jeu vidéo comme un moyen de se sentir mieux et un moyen d'amener vers une thérapie. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on n'est pas dans le côté addictif, dans le côté violence que tu évoques. Ceci dit, faut pas non plus.
Mais passé sur quelle chaîne et dans quelle émission aussi, c'est toujours pareil.
Ah,
pour les audiences.
Il y a déjà passé sur des chaînes d'actu, sur France 5 entre autres. Mais c'est vrai que
déjà qui regarde France 5 de nos jours.
Il y a des gens qui regardent France 5.
Il y a des très bons documentaires.
Il y a des gens qui ne font pas que regarder TPMP. Voilà, il y a des gens qui regardent aussi d'autres choses. Voilà. Mais mais par contre, je veux pas être angéliste non plus parce que tu parlais des addictions et des violences liées aux jeux vidéo. Moi, je déteste qu'on dise « le jeu vidéo, c'est le bouc émissaire, c'est à cause de lui que le mec, il a tapé son copain, c'est à cause de lui que tel garçon s'est fait tabasser dans son collège, dans son lycée, ce genre de choses. » Ça, je déteste. Bien sûr, c'est des raccourcis. Là-dessus, je te rejoins. En revanche, l'addiction aux jeux vidéo et des comportements de colère, de violence ou de manque liés aux jeux vidéo...
Mais on ne dit pas que ça n'existe pas,
que ça existe.
Ce qui est dommage,
c'est qu'on met juste ça en avant. C'est ça qui est dommage.
Ce qui est dommage, c'est que c'est ça, je suis d'accord, qui est mis en avant majoritairement. Dès qu'il y a un problème, on peut se rappeler les émeutes qui se sont passées dernièrement en France. Qu'est-ce qui a été pointé du doigt ? Le jeu vidéo, les jeunes reproduisent ce qu'ils voient sur GTA. C'est ce qui a été.
Oui, mais donc il y a eu les émeutes. Mais je vous rappelle aussi, malheureusement, quand il y a eu les dramatiques attentats aux États-Unis avec les avions qui s'étaient crashés, notamment sur les tours new-yorkaises, on a tout de suite mis en avant le fait qu'ils étaient entraînés sur Microfly Simulator. Alors, je dis pas que c'est faux. Mais me dis pas que Microfly Simulator, c'est ce qui va te faire piloter un avion. Je suis pas sûr que les gros joueurs de Microfly Simulator savent piloter un avion derrière. Et je veux dire que quand il y a des attentats ou des drames, ça ne peut pas être qu'un élément. Et malheureusement, dès qu'il y a des gros drames, on a tendance à tout de suite aller chercher des jeux vidéo de manière néfaste. Et ça
surtout,
me gêne énormément
ça. Et surtout que c'est des personnes de base qui ont des troubles comportementaux. Donc que ça soit le jeu vidéo ou les films ou les livres, il aurait retrouvé à se rapprocher d'un domaine en fait qui l'excite, ce fantasme en fait perverse, il l'aurait trouvé ailleurs. C'est pas le jeu vidéo qui lui apporte ça. Donc en fait, le mettre sur le dos du jeu vidéo, pour moi, ça me dérange. On parle de troubles comportementaux. On parle pas de troubles dus au jeu vidéo. Et qu'on fasse un lien entre les deux, pour moi, ça me dérange. Faut d'abord dissocier l'homme de l'art en fait, tout simplement.
C'est beau ce que tu dis. Et je te rejoins, Joss, évidemment. Ce qui est très intéressant, parce qu'on est quand même quelques-uns à avoir un petit peu de vécu, on a connu certaines choses. Tout un tas de reproches qu'on fait aujourd'hui aux jeux vidéo, ce sont des reproches qui ont déjà été faits quasiment à l'identique concernant les radios libres, par exemple, qu'on a connues. La radio libre ou, je sais pas, les grandes heures de D-Fool, par exemple, le soir, où il y avait vraiment tout et n'importe quoi qui était abordé sans filtre, que ça soit sexuel, parfois des déviances, parfois tout un tas de choses. Ça, on a connu. Et si on regarde aussi un petit peu plus dans l'histoire des médias, on s'aperçoit que la lecture, ça a déjà été aussi diabolisé, quel que soit le type de lecture. Alors, on peut revenir vers le Marquis de Sade, par exemple. Là, je reviens très en arrière, mais tu peux revenir vers des trucs beaucoup plus récents. La BD, jusqu'à il y a peu, c'était considéré comme un truc pour les enfants. La BD, alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des œuvres pour adultes pures et dures. Au hasard, Alan Moore, par exemple, en roman graphique. Donc finalement, la télévision et les films, c'est un peu la même. Aujourd'hui, c'est considéré comme un produit culturel. Comme on l'a dit, le jeu vidéo, c'est encore perçu comme... le jouer pour les enfants.
Oui, mais là
mais
où
c'est en train de changer.
Oui, mais non, c'est pas du tout en train de changer.
Si, c'est
là
en train.
Où tu,
en tout cas, tout ce que je sais, ça a déjà été le même bordel pendant des années avant d'arriver à autre chose.
Là où tu t'inscris, en faux, c'est que dès que les médias parlent des jeux vidéo, on a bien dit que c'est quand ils parlent d'addiction et de violence, et ça fait 40 ans que ça dure. Quand je te cite, ça se discute.
Non,
c'était dans les années 90. Mais bien sûr, t'iras faire des recherches. Ça fait 40 ans que ça dure. Alors me dis pas qu'ils évoluent, justement. Il n'y a aucune évolution là-dessus.
Ouais, ça fait 30 ans depuis les années 90.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Jalma. Au final, je me retrouve dans tout ce que tu dis dans ton argumentaire. Mais Est-ce que je peux donner le point? Est-ce que vous avez encore beaucoup
de choses
à dire?
Non, moi j'ai terminé là. Maintenant, j'espère que tu vas me donner la victoire parce que c'est...
Je te rejoins. Non, bah, en fait, je te rejoins à 200%. Je suis dans ton positionnement, vraiment. C'est exactement tout ce que j'avais envie d'avancer aujourd'hui dans ce débat. Mais j'ai envie de donner le point à French et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je trouve qu'il a très bien défendu la vision aussi des médias. Enfin, je trouve qu'en fait, depuis le confinement, on a une vision un peu nouvelle sur le jeu vidéo. On essaye de
mais
le traiter
pas les
de
médias, vous, oui, mais pas les médias.
Les médias, ils essayent de le traiter un peu plus. Ils essayent de le mettre un peu plus en avant.
Mais donc, t'as vu comment c'est traité ?
Non, en fait, là où je donne pas le point à French, je donne pas le point à French pour lui dire que oui, il a raison. Je donne le point à French pour lui dire que oui, ça tend vers une évolution.
Non, mais là, ça s'appelle un point de complaisance.
Non,
je
pas
suis
du
désolé,
tout.
C'est
pas
pour lui faire plaisir.
Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que
laisse-moi
parler. Pas du tout, parce que je suis d'accord avec toi, c'est ce que je dis, mais je trouve qu'il y a une volonté de traiter l'actualité plus que ce qu'on l'entend avant.
Eh ben, j'aimerais bien que vous m'envoyiez les chaînes qui le font.
Mais LCI, même si c'est fait de manière très maladroite, même si c'est fait de manière très maladroite, on sent qu'il y a une méconnaissance du sujet. La manière de l'aborder, pour moi, je l'ai trouvée dérangeante, mais il y a la volonté de l'aborder. Alors pourquoi ils n'ont pas fait appel à un spécialiste pour en parler, je ne sais pas. Mais il y a une volonté d'en parler quand même. Et ça, de plus en plus. On se rappelle mais on se rappelle tous de l'époque, ça a bien évolué depuis que... On se rappelle tous comment Squeezie avait été reçu chez Thierry Ardisson, ça a bien évolué depuis. Il y a quand
oui,
même
attends,
un
Thierry
autre...
Ardisson,
il y a quand même...
un provocateur,
oui,
on connaît
mais
le
il y a quand même un autre rapport sur le...
Mais attends, mais vous regardez, si, des fois, je disais, quand ils parlent d'un film ou d'une série de télé, c'est jamais autant dégradant. Hein. Ils en parlent avec sérieux. Me dis
et
pas
ouais,
que même s'il n'y a pas
problème.
De spécialiste sur le plateau, ils ne peuvent pas se renseigner un minimum. Ou alors, dans ces cas-là, ils savent contacter des spécialistes au téléphone qui leur préparent le sujet. Pourquoi le sujet sur Final Fantasy, ça aurait pu être un autre, et aussi dégradant par rapport à un film ou une série télé. Je suis désolé, vos arguments ne sont pas viables là-dessus, surtout que c'est le numéro 1 maintenant.
Je t'ai pas répondu sur ce point-là, mais tu m'amènes du coup à amener un petit point de réponse. Moi, je te dirais que finalement, c'est pas si différent, et tu vas pas être d'accord, bien évidemment, mais c'est pas rare. Pourquoi ? Parce que dans le cinéma, c'est quand même immensément vaste. Moi, je vais te prendre un exemple. J'adore le cinéma d'action, j'adore la série B, j'adore, en gros, tout ce qui va se rapprocher des films comme John Wick, par exemple. John Wick avec Keanu Reeves, c'est hyper connu, ça marche, c'est un film qui est très fort. Mais pour un John Wick, il y a des dizaines et des dizaines de films d'action qui sont très réussis et dont on ne parle absolument pas. Donc finalement, les médias passent aussi sous silence tout un pôle de la production parce que tout simplement, c'est pas les trucs qu'on traite
alors
en général.
Alors je vais te répondre à ça parce qu'à un moment donné, je vais pas non plus.
Non, c'est le même
faire.
Bordel que le jeu
vidéo. Je suis désolé, il y a une émission sur Canal Plus qui s'appelle Le Cercle et chaque semaine, et c'est hebdomadaire, ils parlent du cinéma d'action.
Que ce soit le cinéma d'action Corée du Sud, Hongkongais, Indien, ils en parlent. Excuse-moi,
il y a une émission de jeu vidéo, il y a une table ronde où, hebdomadaire où ils parlent du jeu vidéo. Juste six doigts en une.
Là, je
alors, arrête.
Mais le cinéma a une émission, d'accord. Mais le cinéma n'est pas plus valorisé que le jeu vidéo.
Mais bien sûr que
c'est
une émission hebdomadaire.
C'est ça, c'est quatre films. C'est quatre films qu'on évoque.
Une émission hebdomadaire, arrête
beaucoup plus. French, beaucoup plus. Regarde toutes les cérémonies. Il y a des émissions constantes.
Les César Cerlier.
Toutes les cérémonies qui sont traitées dans les médias. Il y a une vraie éloge. Il y a une vraie éloge du cinéma comparée à celle du jeu vidéo. Je rejoins Jelma, vraiment, je te donne
Canal,
le point.
Canal resserre rediffuse les Oscars. Bah, Canal rediffuse les Game Awards ?
Non, mais c'est pas la peine, tu peux gueuler comme tu veux. Je suis désolé. Moi, à partir du moment où tu représentes les émissions, vraiment, elles existent. C'est bien, c'est très bien, c'est positif. J'aimerais que le jeu vidéo ait la même chose. Maintenant, si tu me dis que Le Cercle est une belle émission par ailleurs, si tu me dis que Le Cercle, c'est le cinéma tel qu'il se déroule en France, excuse-moi,
je t'ai
pour
pas
moi,
dit
c'est
ça,
même
je
pas
dis,
2%
c'est
de ce que,
ce qu'il y a dans le jeu
même
vidéo.
Pas.
Non, je te dis plus, c'est toujours plus que ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il ne relaye pas les Games Awards, il n'y a pas d'émission hebdomadaire, je suis désolé. C'est inexistant nulle part, sauf de temps en temps, et c'est très
écoute
ponctuel.
Écoute un petit peu France Inter quand il parle du traitement, tu verras que ça compense beaucoup plus Le Cercle qui se contente de 4 films seulement.
C'est fou de vivre avec un voile
devant les yeux. Moi, en tout cas, je suis totalement d'accord.
Le manque de culture, ça m'horripile,
je suis total, malgré le point que je t'accorde, Fred, juste pour le côté où ça veut tendre à l'évolution et le traiter de manière mauvaise.
Putain, vive l'évolution. Quoi.
Non, mais ça veut tendre. J'espère que dans les années à venir, il y aura un autre traitement de l'actualité. Malgré ce point que je t'accorde, je rejoins à 300% Jalma sur tout son argumentaire.
N'importe
il est quand
quoi.
Même. Non, il est
et
quand
les
même
auditeurs
bon.
Vont me rejoindre. Ils vont
moi, mais bien sûr,
quoi,
mais, bien,
voilà.
Mais on ne peut que te rejoindre sur ce que tu dis. Il est bon
non.
De rappeler. Il est bon de rappeler quand même que le jeu vidéo, ça représente la première industrie, et je dis bien culturelle, même si les gens ne veulent pas l'entendre, culturelle aujourd'hui devant le cinéma et la musique. Il serait temps d'arrêter de voir le jeu vidéo comme une problématique sociale.
J'ai une question subsidiaire. Le fait que Jules, ça soit l'un des meilleurs vendeurs français qu'on ne voit pas dans les médias français, ça vous pose un problème ou pas ?
Jules ?
Oui, Jules,
bah,
le rappeur
Jules. Il est dans
l'éditeur
de la musique, hein, par exemple, sur France 2. Hein.
Ouais, d'accord. Et tu l'as vu ailleurs ? Simple question.
Je viens de te répondre sur une chaîne publique. Alors après, moi, je ne suis pas suffisamment la musique pour te répondre là-dessus, mais il est bien dans les victoires de la musique.
La mauvaise foi, c'est ça.
Et je crois qu'il est sur Energy Music Awards de TF1. Alors, tu
pour se détendre un peu, est-ce que l'industrie a-t-elle réellement besoin de ces médias? Non, je ne pense pas. On a nos propres presse spécialisées, on a nos propres cérémonies, on a nos propres canaux numériques, qui sont d'ailleurs les canaux qui sont les plus exploités par ceux qui consomment le jeu vidéo aujourd'hui. Dis-moi, est-ce qu'on regarde beaucoup la télé? Non, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui est intéressant, c'est que mes parents comprennent ou que les parents comprennent le loisir de leurs enfants. Et c'est pour ça que c'est important de le relayer de manière positive, le jeu vidéo. Mais honnêtement, on n'a pas réellement besoin d'eux. Il est déjà traité de manière globale par tous les acteurs aujourd'hui qui font cette industrie. Après voilà, c'est juste dommage pour l'ouverture d'esprit que ça pourrait permettre, mais on n'a pas besoin d'eux.
En tout cas, moi je suis tendu pour le quiz qui arrive. Hein.
Non, mais je tends quand même à, s'il vous plaît, il serait temps de considérer, et je tiens à le dire, le jeu vidéo comme un art à part entière et d'arrêter de le décrédibiliser ou d'en parler, je sais pas, inviter des experts, parlez-en de manière.
Non, mais selon Fred, c'est suffisant. Il en parle très bien.
Mais tu m'écoutes jamais.
T'as pas compris ce qu'il a dit.
Moi, je t'ai écouté. J'ai fait l'effort de t'écouter.
Allez, on clôture cette plaidoirie. C'était très intéressant de vous entendre crier. On va passer au coffre maudit. J'ai hâte.
C'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit.
Alors, le coffre maudit, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui ne nous connaissent toujours pas, l'idée, c'est une rubrique décomplexée. À chaque podcast, elle sera différente. Ça pourrait être un quiz, une question de mystère, un débat maudit ou bien même un blind test. Le coffre piochera pour nous le jeu du jour. Et aujourd'hui, c'est donc le quiz infernal que j'ai tiré. Alors, ça va être 5 petites questions pour tester vos connaissances de l'industrie vidéoludique. On va enfin savoir si vous êtes des imposteurs ou non. Est-ce que vous êtes prêts?
C'est bien parce que si on ne sait pas répondre, tu nous décrédibilises auprès de tout le monde, quoi. on connaît pas la question et d'ailleurs, on doit faire quoi? On doit faire signe ou...
Bon, je vous laisse répondre comme ça, de manière spontanée. Mon première question. En quelle année le premier jeu vidéo a-t-il été créé? Base. Question de base. 1898, 1958, 1962. Ça va être aussi des petites anecdotes, ce quiz.
Bah, 1962.
Bah, je vais dire 58 pour le fun. C'est dans ces zones-là.
Et en effet, c'est en 1958 que le premier jeu vidéo a été créé. Alors, on parle de Tennis for Two, hein, qui est le véritable premier jeu vidéo. Et je dis véritable, puisqu'en 1950, on avait eu Bertie the Brain, qui était un espèce de morpion numérique, une grosse machine. Mais c'est pas vraiment considéré comme un jeu vidéo comme tel. C'était plus un mécanisme de jeu. Là, Tennis for Two, en fait, c'était la version old school, très old school, du jeu Pong, qui est sorti 14 ans plus tard. C'était une machine unique... créé par Higginbotham, pardon si je massacre un peu le nom, qui fut un succès monstre. Hein. Les gens faisaient la queue devant, ça a révolutionné beaucoup de choses, et d'ailleurs ça a été l'idée en fait qui a lancé cette révolution dans l'industrie du divertissement comme on la connaît aujourd'hui. Donc Tennis for Two, pionnier un peu de cette industrie.
Et en même temps que la constitution française, la 5e constitution qui a été adoptée, comme on en parle beaucoup en ce moment, c'était le petit clin d'œil. Moi, je montre que j'ai de la culture un petit peu ailleurs, si ça peut me sauver.
Ça me fait plaisir, tiens, ça change.
Jalma, je t'attends sur celle-ci. Mario, que je ne vous présente plus, un personnage mythique de Nintendo, mais à la base de tout ça. Savez-vous quel personnage Miyamoto voulait réellement exploiter dans son jeu vidéo avant d'être finalement contraint, si je puis dire avec de gros guillemets, de créer le légendaire Mario? Alors, est-ce qu'il voulait traiter Astérix, Popeye ou Snoopy?
Oh là, tu me poses une colle. C'est vrai que je connais pas trop l'histoire du jeu vidéo pour le coup.
Ah.
Allez, on va partir sur Popeye, un peu au hasard.
Et toi, French?
Je vais dire Astérix, parce que c'est ce qui s'apparente le plus à Mario.
Astérix? Eh bah écoute, Jalma, Popeye, tu gagnes un point. Un point dans ce quiz.
Moi, Astérix, ça me paraissait bizarre parce que la liste, c'est tellement fort, etc., que je le voyais mal adapté à Astérix.
En effet, c'est Popeye. En fait, à l'origine, le jeu Donkey Kong, dans lequel Mario fait son apparition, hein, devait être un jeu Popeye avec Olive et Brutus. Mais Nintendo n'a pas pu acheter les droits pour créer le jeu. Et c'est là qu'est né Donkey Kong avec son partenaire Mario. Bon, finalement, il y a quand même Nintendo qui a sorti un jeu Popeye un an après Donkey Kong. C'était totalement différent. Mais voilà. La base part de là.
Comme quoi, c'est Popeye bien de se faire refuser des licences, parce que quand tu vois le succès de Mario et Donkey Kong derrière, finalement, heureusement.
C'est une histoire, c'est une belle histoire au final.
Les questions, elles vont être chaudes comme ça tout le long ou
Non, elle est plus facile celle-là. Elle
Allez,
est plus facile.
Elle aurait dû appeler ça. Je vais vous faire le quiz pour que vous passiez pour des cons.
Non, tu vois, celle-ci est plus facile. Quelle franchise n'a pas été adaptée par Telltale Games? Jurassic Park, Retour vers le futur, Wallace et Gromit ou Star Wars?
Vas-y, je te laisse répondre parce que moi j'ai un doute pour le coup. c'est Star Wars. J'aurais dit ça aussi, ouais.
Ouais, tout à fait, c'est Star Wars. On a eu Wallace et Gromit en 2009, on a eu Retour vers le futur en 2010 et Jurassic Park en 2016. Quatrième question, avant la dernière qui est une masterclass. Quel point commun ont Joël de The Last of Us et Booker DeWitt de Bioshock Infinite?
Ce qui est bien, c'est que j'ai pas fait The Last of Us, donc c'est bien que pour la question du quiz, ça va m'aider, ça.
C'est une question assez logique, celle-ci est assez simple. Ils ont la même date de naissance, ils ont le même doubleur, ils débutent le jeu avec la même phrase.
Ah, mal ça. Alors, je vais dire qu'ils ont le même doubleur, je vais être assez terre-à-terre dans la réponse.
Ils ont le même doubleur, tout à fait. Les deux personnages sont doublés par Troy Baker, à qui on doit de nombreuses voix dans le jeu vidéo, comme Bag and Min dans Far Cry 4, ou Samuel Drake dans Uncharted.
Parce que franchement, t'imagines, avoir la même phrase, c'est quand même abusé, parce que c'est-à-dire que les mecs, les leaders, les gamers, se rappellent
les
des
connexions.
Phrases dans de chaque début de jeu. T'imagines quoi, le truc de fou, quoi.
Allez, cinquième et dernière question. Je sais pas compter les points, je sais pas à quoi on en est. Bon, on va dire que c'est...
Il a un point d'avance, Jalma.
Jalma a un point d'avance. Cinquième question.
Ça rapportera le point que j'ai pas eu au quiz, au débat juste avant, pardon.
Ouais.
Quel personnage a dit cette phrase si inspirante qui, je pense, nous a tous marqués?
Ce rêve bleu, Aladdin, non, pardon.
Non, je cite, « Mes couilles sur ton nez, t'aurais l'air d'un dindon. »
Personnage, jeu vidéo.
Ouais.
Qui a dit ça? Bah, on a le droit d'avoir de citer les jeux, là?
Ouais. C'est le personnage... Ah merde, je pensais que vous l'auriez.
Mes couilles sur ton nez,
t'aurais l'air d'un dindon.
Mais je trouve que j'ai même pas fait le jeu, moi, ça me dit rien du tout.
On y a joué?
Ah merde. Je pensais que vous l'auriez, excusez-moi. J'avais hésité ça ou entre une autre phrase de Assassin's Creed. J'ai vraiment hésité entre les deux, mais je pensais que, comme c'est un peu de votre génération, je pensais que vous alliez l'avoir.
Ouais, j'attends de voir le jeu, ça se trouve, on l'a jamais joué, tu sais.
Non, c'est Duke Nukem, en fait.
Oh, putain, qu'on se souvienne de ça, c'est
putain. Ouais, quand même, l'incarnation du gros bourrin narcissique. Bah,
est-ce que tu veux qu'on se souvienne de ça,
on était
tout petit, quoi. Bah, Fred, je passais bien le bac, mais moi, j'étais tout petit.
Bah oui.
Non, pour la petite histoire, ouais, c'est une phrase qui est tirée de Duke Nukem Forever, qui a d'ailleurs connu un développement chaotique. Il aura fallu plus de 14 ans pour le sortir. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus célèbres vaporware, puisque son développement a commencé en 1996 avec une publication en 2011. Le gros bourrin, mes couilles sur ton nez, t'aurais l'air d'un dindon.
Nukem Forever, c'était...
D'ailleurs, je vais te donner l'info en exclusivité. C'est grâce à Duke Nukem Forever que French a développé sa puberté, tu vois.
Ah, c'était intéressant. Comme je suis un petit peu... Merci, c'est sympa. Mais comme je suis un petit peu plus vieux que ça, c'était plus avec Duke Nukem 3D qui était sorti auparavant. Mais oui, effectivement.
Voilà. Il a construit, voilà, il s'est construit grâce au jeu vidéo, French, c'est incroyable. Voilà ce qu'il est devenu.
Mon rapport aux femmes, c'est Duke Nukem 3D qui me l'a donné.
Oh merde.
J'espère que certaines personnes n'écoutent pas ce que je dis là.
Ce qui est très bien, mais très bien pour l'info qu'on le dise, parce que les gens ne savent jamais quand on enregistre. On enregistre le 8 mars 2024, le jour de la journée de la femme, et il sort une...
T'as quand même la rappeler ce matin en plus.
Bravo French, je pense que nos auditrices vont être très agréablement surpris de cette phrase-là, et je pense qu'on peut même conclure là-dessus, tellement c'est incroyable. Là, tu nous as fait la masterclass.
C'était
quoi.
Une blague, bien entendu.
Je tiens à préciser quand même que tu rapportes ce petit quiz. Je suis curieuse de savoir en commentaire si vous avez eu des bonnes réponses. N'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas aussi, je le rappelle, je sais, vous l'entendez peut-être à chaque podcast, mais c'est important pour nous de mettre le petit pouce si jamais vous appréciez notre contenu, de nous permettre en fait, d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les réseaux. C'est bête, hein, mais c'est un commentaire, un pouce, ça va nous donner un petit peu plus de champ de vision. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci encore pour ceux qui le font d'ailleurs dernièrement et qui sont de plus en plus nombreux à nous laisser des messages ou à réagir.
Oui, parce qu'on lit vos messages, c'est vrai qu'on n'en parle pas en podcast toujours. D'ailleurs, on va peut-être les relire un jour, ça pourrait être bien, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de vous lire, etc.
Ouais.
Et on a beaucoup aimé vos commentaires sur Banisher. Voilà.
Voilà, merci à vous tous. Écoutez, merci les garçons. Écoutez, il y a 1-1 pour ce podcast. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle thématique encore bien virulente.
Allez, bisous,
jouez
à bientôt.
Bien et bonne journée de la femme, bien sûr.